On va aller parler à Dr. Gaétan Barrette, comme on le fait à chaque jour à cette heure-ci, pour un tour d'horizon là, du bilan ici au Québec. Et Dr. Barrette, bonjour.
Bonjour.
OK, qu'est-ce qu'on pense du bilan qui a été présenté aujourd'hui? D'abord, on va parler de répression après.
Alors, bonne nouvelle, on s'attendait à ça. Regardez toujours l'hospitalisation, les soins intensifs, ça va bien. 900 patients dans une journée, il en reste pas moins que c'est juste 20 % là. Juste de même, Patrick, on commence à s'énerver là, dans une pandémie quand on double aux trois jours.
Okay.
On est bien loin de ça. Aux États-Unis, au moment où on se parle, là, ils doublent quasiment aux journées.
Donc, ce qu'il faut pas oublier, Dr. Barrette, c'est, oui, les chiffres sont gros, mais il faut se rappeler que tout ça est relatif. C'est-à-dire que, oui, 900 d'un coup, c'est beaucoup, mais quand même, d'une part, ça double pas aux trois jours, comme vous dites, dans les scénarios catastrophes, et on est à 96 patients aux soins intensifs, hausse de 14. C'est pas une hausse qui est proportionnelle à la hausse de gens qui ont été dépistés.
Exactement. Puis même si on la projette dans deux semaines, parce qu'on dit toujours que l'effet de ces 900 nouveaux-là, on va avoir un pourcentage qui est à peu près le même, là, 5 % dans 10 jours aux soins intensifs, même quand on projette ça de plus, là, capable de prendre ça, il n'y a pas de problème.
OK, donc vous êtes toujours, je vais dire, prudemment optimiste.
Oui, parce que j'ai pas de boule de cristal.
Oui, évidemment.
Si les gens, demain matin, arrêtent d'observer les mesures, ben c'est l'huile sur le feu. Le feu pogne, puis on va avoir des grosses hausses, 2000, 3000 par jour. Mais on n'est pas là du tout, là.
OK, je veux qu'on parle un peu de répression. C'est-à-dire que vous avez vu le point de presse comme moi. On est au début, là, le gouvernement nous enjoignait à pratiquer la distanciation physique, à rester chez soi, etc. Tout ça était dans l'encouragement. Et là, aujourd'hui, il y a une gradation. Le PM a dit, écoutez, là, la police va être beaucoup moins tolérante. J'invite les Québécois à dénoncer. Est-ce que c'est une stratégie qui est utile à ce point-ci?
Oui, c'est utile parce qu'il faut décoder ce qu'il y a là-dedans. Ce qu'il y a là-dedans, là, cette phrase-là, plus celle que je viens de dire, l'effet est dans 10 jours et 12 jours, là. Alors, si on veut éviter une flambée dans le système dans deux semaines, il faut commencer à être plus raide aujourd'hui. Ce qu'il nous dit, le premier ministre, là, c'est que le pic s'en vient, sans nous le dire. Là. Ce qu'il nous confirme, à quelque part, là, c'est que le pic là, il est autour de la deuxième, troisième semaine d'avril. Et comme l'effet des grands nombres, il arrive 10 jours après, et comme les grands nombres sont encore plus grands si on ne respecte pas les mesures, bien là, il met le point sur la table et il dit organisez-vous pour respecter les règles. Sans ça, on va faire autre chose pour que vous les respectiez. Ce qui est correct. Je veux dire, c'est correct. Mais il nous le dit pas, là, mais ce qu'il nous annonce, c'est que le pic, là, il s'en vient, on est à la porte d'eux, puis on agit en conséquence d'eux.
OK. On a vu une éclosion à l'hôpital de Verdun. 40 patients, 5 médecins en confinement. Qu'est-ce que vous analysez là-dedans?
C'est la démonstration que les mesures fonctionnent et si les mesures n'ont pas été parfaitement appliquées, ça donne ça. L'hôpital de Verdun, là, c'est pas un hôpital de 5000 lits, là. Alors, est rentré dans l'hôpital, malheureusement, le virus. Il s'est propagé parce qu'il y a eu des contacts. Et là, c'est pas la question d'accuser qui que ce soit, là. C'est de simplement dire à tout le monde, regardez, là, c'est ça que ça fait. Un hôpital, on est proche les uns des autres, on peut pas nécessairement s'éloigner les uns des autres. C'est impossible de travailler à 2 mètres d'un patient, on s'entend. Alors, c'est là où on doit le faire le plus attention. Je dis pas que les gens n'ont pas fait attention. Je dis que c'est arrivé parce que c'est arrivé. Et c'est dans ces endroits-là que ça risque d'arriver toujours. Maintenant, si on avait des équipements en abondance, là, puis que tout le monde arrivait en cagoule, puis avec la... Bon, on ne l'a pas. Alors, on n'est pas surpris de voir ça. Mais ça fait juste dire à tout le monde, incluant le personnel, faites attention, c'est vous autres qu'on doit protéger, c'est vous autres qui nous soignez, lâchez pas, on va tout faire pour vous aider, et c'est ça.
OK, Philippe, une question pour vous.
Docteur Barrette, on sait que la situation est problématique à Montréal et aujourd'hui, la mairesse a annoncé que ce sera le retour des Bixi le 15 avril. Là, il y a des gens qui vont dire « Hey, mais pourquoi sortir les Bixi à ce moment-là? » Les gens vont mettre les mains sur les poignets, ça peut être transmettre le virus. Par contre, d'autres vont dire « Ben non, on va prendre plus les Bixi, moins les transports en commun, donc ça va être profitable que les Bixi soient de retour. » C'est quoi votre regard sur la situation?
Ben le Bixi, vous avez pris l'exemple, je dirais, parfait, là. Les poignées de Bixi, c'est l'équivalent des poignées de porte. Alors là, les poignées de porte, on demande de les nettoyer. il y a des gens qui vont vous recommander de prendre la serviette de papier puis d'ouvrir la porte avec la serviette de papier puis l'acheter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, juste de même, là, quand vous débarquez de votre Bixi, là, il est où le lavabo à proximité?
Il n'y en a pas.
Ben, c'est ça. Fait que moi, le Bixi, écoutez, c'est pas moi, je vais pas... Vous voyez, là, moi, je suis pas là pour lancer des pierres, là. Mais disons que sur le plan de la propagation, c'est pas nécessairement la mesure. Quelqu'un va me dire, oui, mais le Bixi est dans l'atmosphère, puis dans l'air, ça vit juste 3 heures. Oui, mais au centre-ville, le Bixi, bon, il y a moins de monde, c'est moins utilisé, mais quand même, le Bixi, c'est... Puis en plus, c'est un incitatif à sortir, hein, on va s'entendre là-dessus, là. C'est le fun d'aller prendre l'air quand il fait beau au mois d'avril.
Si on désinfecte nos mains tout de suite après avec du gel alcoolisé...
Ah ben oui. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Okay. C'est le principe de la poignée de porte. Si vous ouvrez des poignées de porte à journée longue, vous lavez les mains après, c'est la même chose pour les Bixi, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. On n'attrape pas la COVID-19 en se promenant en bicyclette. On n'attrape pas ça comme ça. C'est trop loin. Par contre, la poignée de bicycle, ça, oui, c'est un vecteur potentiel.
OK, je veux qu'on parle, Dr. Barrette, d'un concept là, en science qui s'appelle « herd immunity ». OK, ça, c'est l'immunité de groupe, de troupeau, littéralement.
Ouais.
Et c'est une stratégie qui a été adoptée par la Suède. Moi, je reçois beaucoup de courriels là-dessus. J'aimerais que vous démystifiez, s'il vous plaît, le concept d'immunité de groupe.
Alors, l'immunité de groupe, c'est pas compliqué. Vous avez le virus, vous allez développer des anticorps. Le virus, il se présente à vous, vous êtes immunisé. Okay. 8 millions de personnes qui ont le virus, le Québec, et qui ont des anticorps, le virus arrive au Québec, il fait rien. Ça, c'est l'immunité de groupe. Et on considère que si 80 % des gens ont cette immunité-là, donc qui ont été exposés, donc qui ont eu des anticorps, le virus fait rien dans cette mini-société-là.
Okay.
Alors, la Suède, elle a fait le pari à cause de sa situation et sa distribution de population qu'eux autres, là, ça va moins s'étendre qu'ailleurs parce que c'est pas très métropolitain, la Suède. C'est plus rural, disons. La population est très étalée sur le territoire. Ils font ils font le pari qu'en laissant aller le virus, un, il va se faire une immunité de groupe qui va prendre un certain temps. Et si jamais le monde est pas mal malade, parce que ça n'a pas vraiment bien marché, ils ont un système de santé qui est capable de prendre en charge leurs malades. Ça, c'est un pari. Puis je vous donne un exemple. Ils disent, eux autres, qu'à 60 % de la population contaminée, le virus ne fait plus rien de significatif. Oui, mais la littérature, c'est plus 80. Alors, ils font un pari en quelque part. Ils disent, on a une seule grande ville, Stockholm, mais pas si grande que ça. On a beaucoup de petites villes, petits villages. Le virus se propage pas nécessairement partout. Ça va aller lentement. Puis nous autres, on va être corrects. Puis est-ce qu'on va développer cette immunité-là correctement? Puis le virus va passer, puis tout le monde va être content. Bon, c'est un pari, parce que ceux qui ont essayé ça, et on l'a en direct actuellement, c'est les États-Unis. Ils l'ont pas essayé volontairement. Mais c'est ça qui arrive aux États-Unis. Les autres font un autre pari. Et qui a raison, là? Ben, on va le savoir après la pandémie.
Mais en Suède, c'est important de le dire, ce modèle-là, ce pari-là, comme vous le dites, Dr. Barrette, c'est basé sur des données scientifiques acceptées, qui font consensus, sauf que c'est parfait pour eux, probablement moins parfait pour nous autres au Québec à cause de la distribution de la population, c'est ça?
Oui, entre autres, et des habitudes sociales. Alors, les Suédois, là, je vais faire un parallèle, là. Vous savez, moi, je l'ai déjà dit à un moment donné, là, les Italiens, là, sont extraordinairement chaleureux. On les aime, les Italiens, parce qu'ils ont un sens de la famille. Puis, oui. C'est le fun d'être avec eux autres, là. C'est un beau pays pour ça. Mais en même temps, pour le coronavirus, le COVID-19, là, c'est le paradis sur Terre. Tout le monde se touche, tout le monde s'embrasse, tout le monde mange ensemble, tout le monde est en famille, matin, midi, soir. Les grands-parents sont avec les petits-enfants, et ainsi de suite. Il y a le côté social qui a un impact. Il y a le côté de la distribution géographique. Il y a l'âge de la population. Il y a toutes sortes de facteurs qui font que le virus va se propager ou non, puis avoir un grand impact ou non. Les Suédois ont regardé tout ça, puis eux autres, ils ont mis ça dans la balance avec l'économie, puis ont dit, on prend nos chances. Nous autres, dans nos habitudes de vie, la manière qu'on fonctionne, je pense qu'on va être correct. et on décide de ne pas ralentir l'économie de la Suède et de prendre le risque que ça aille mal. Et je peux vous dire une affaire, il y en a de l'opposition en Suède contre ça, mais c'est ça que les autorités ont pris comme position et ils continuent dans cette direction-là.
Est-ce que leur bilan est, je veux dire, réjouissant ou au contraire, ben, ça se compare mal?
Selon les statistiques que l'on a, pour le moment, ça semble fonctionner.
OK.
Les autres sont partis, puis une autre chose que j'ai pas dite, ils regardent, eux, leur situation. Il semble que, en faisant rien, dans leur pays, dans leur structure, dans leur fonctionnement social, ça part pas en peur. Ils ont une pente qui grandit comme tout le monde, mais qui est pas là une pente ascendante là, dont on a perdu le contrôle comme on voit dans l'État de New York.
Et il y a peut-être une distribution, une disponibilité de lits de soins intensifs aussi qui est différente de ce qu'on voit ailleurs.
Et de lits généraux. Eux autres, quand on regarde leurs statistiques, ils ont 20 000 lits d'hospitalisation. Là, je regardais ça tantôt. Pas 20 000, 26 000 lits. C'est parce que nous autres, là, on en a effectifs, là, 13 000. Ils ont le double. Ici au Québec, on dit 18, mais il n'y a pas 18 000 lits d'hospitalisation. Ça, c'est les lits au permis. Là. Je vous donne un exemple. L'hôpital de Notre-Dame a déjà eu 1 000 lits au permis là, dans le temps que j'étais étudiant en médecine. Aujourd'hui, il y en a 300 dedans. Là. Alors, il y a à peu près 14 000 lits au Québec, 13-14 000 lits d'effectifs. Eux autres, ils en ont 26. Puis là, ils ont des lits de soins intensifs et qui à l'avenant. Fait que eux autres, ils regardent tout ça, puis ils disent, on est cool, là, puis on va essayer ça, puis on pense qu'on va être correct. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être corrects. Ça, on va le savoir.
Et Dr Barrette, on me glisse à l'oreille que le pays voisin, la Norvège, a 5 fois moins de mortalité de coronavirus qu'en Suède. Populations là, qui sont équivalentes à peu près. Là.
Exactement. Alors, écoutez, il n'y a pas de recette magique dans cette affaire-là, mais sur la théorie de l'immunité de groupe, là, collective, ça marche. Toujours. Un virus, s'il atteint toute une population sur un territoire donné là, et que tout le monde développe une immunité, évidemment, ça arrête là. Puis la saison suivante, ben voilà, on est tous immunisés, le virus ne peut rien faire. Ça existe, c'est fondé. Maintenant, c'est toujours la même chose, c'est la vitesse d'apparition du virus qui fait que ça déborde ou non. Et là, l'expérience qu'on a vue, c'est que partout où le virus est entré, ça a flambé et ça fait déborder les systèmes de santé. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Eux autres font le pari contraire. On verra. Puis peut-être qu'on va découvrir après, bon, OK, dans les pays où c'est froid, où il y a telle organisation sociale, il n'y a pas besoin de faire des mesures aussi extensives que l'on a faites. Mais ça, c'est comme la saison de hockey. On gagne toujours la Coupe Stanley au mois de juin.
Merci. Écoutez, vous m'avez dit tantôt que vous alliez à l'épicerie parce que là, ça commençait à être vide. Faites attention. Lavez vos mains. Mettez des gants. On ne veut pas vous perdre.
Oui, puis merci aux épiceries parce que c'est bon leur affaire. Hein? On se lave les mains en rentrant et en sortant. Là, c'est excellent.
On prend d'excellentes mesures. Merci, on s'en reparle demain.
Bonne journée.